Bonjour, vous écoutez le Café du Centre, le podcast où on se rassemble pour parler d'actu et d'enjeux de société. Installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et laissez-vous emporter par une génération engagée.
Bonjour François, je suis de près ton travail au Parlement et j'ai voulu t'inviter parce que justement tu es chef de groupe dans l'opposition et donc je voulais un peu qu'on discute de ce que tu fais au Parlement.
Ben bonjour Sonia Chloé, merci de m'accueillir dans ton studio, en plus c'est le Café du Centre, oui. Bien sûr non seulement je suis centriste mais en plus ma région d'origine c'est le Centre. Et donc ça c'est vraiment un chouette petit clin d'œil à ma belle région qui va bientôt entamer la saison des carnavals. Alors tu me connais un petit peu.
Oui.
Je m'appelle François Adéquenne, je suis député wallon effectivement depuis maintenant plus de 9 ans à la région wallonne donc aujourd'hui je suis chef de groupe des engagés là-bas avec un parcours qui est finalement le fruit d'une histoire personnelle d'engagement, d'abord, avant que les engagés n'existent d'ailleurs, d'abord dans le monde associatif, dans le secteur de la jeunesse, et puis voilà, de fil en aiguille, l'engagement politique au niveau communal, et puis voilà, une opportunité, un jour, une rencontre avec une autre personne qui m'ont amené à devenir député, et puis la confiance de mes concitoyens aussi, bien sûr. J'ai un petit peu parlé de moi, mais toi, je te connais moins, Sonia Chloé.
Oui, donc moi, j'ai rejoint les engagés il y a 5 ans maintenant, en 2019, justement quand les engagés passaient dans l'opposition, ouais. Et que c'était le CDH, et que c'était un parti traditionnel qui se remettait en question. Donc, il y a eu tout le processus de refondation. Donc, j'ai rejoint les engagés à ce moment-là. Et donc, pour donner un peu des infos sur moi...
Très jeune, alors.
Oui. Ouais. J'ai étudié l'histoire. Donc, je suis une passionnée d'histoire. Et très souvent, dans les cours, les professeurs faisaient des liens avec l'actualité politique. Et je me suis dit, dès que j'ai terminé mon cursus universitaire, je me suis lancée en politique.
Et c'était quoi ton domaine de prédilection de l'histoire? L'histoire contemporaine ou bien
l'Antiquité.
Donc, l'Antiquité,
Je suis spécialisée dans la mythologie romaine, donc c'est vraiment la vieille époque. Mais j'ai dû étudier toutes les époques, y compris l'histoire contemporaine. Et j'étais vraiment passionnée.
Il y a encore des liens avec le présent, parce que quand tu vois
tout
aujourd'hui la mythologie, c'est finalement des ressorts du profond de l'humanité qu'on retrouve aujourd'hui dans pas mal de comportements, d'attitudes des uns et des autres. Hein, ça, c'est un...
ouais.
Voilà, et puis c'est comme ça qu'on tire les leçons de la vie.
Et du coup, moi, je viens de Liège, ville, j'ai 28 ans.
Ah ben, ça ne s'entend presque pas.
Oui, j'ai un petit accent, mais j'en suis quand même un peu fière. maintenant, François, on a fait connaissance, donc je propose qu'on passe à la séquence suivante, qui est les sujets d'actu. François, quel est le sujet d'actualité dont tu veux nous parler?
J'aimerais te parler d'un dossier qui, moi, me tient à cœur. C'est celui de la consigne sur les canettes et les bouteilles en plastique. C'est un combat qu'on mène depuis de nombreuses années au niveau des engagés et que j'ai repris comme cheval de bataille parce que je pense qu'il y a derrière ça un vrai enjeu de société avec des éléments, bien sûr, de propreté, mais aussi d'économie circulaire et aussi de nouvelles façons de se comporter demain pour avoir une planète qui soit vivable pour ceux de ta génération et ceux qui vont suivre.
Oui, tout à fait. Moi, mon papa vit en Allemagne, à Düsseldorf, et là-bas, ils font tout ce système de consignes et il me dit qu'il ne comprend pas pourquoi en Belgique...
Moi aussi, j'ai un peu de mal à comprendre de ce qui bloque. Pour parler plus sérieusement, c'est évidemment... un sujet qui nécessite une approche très précise, très rigoureuse. Ouais. Il y a 2 milliards de canettes qui sont consommées chaque année en Belgique. 2 milliards de canettes. Mmh. Donc ça fait une masse considérable d'objets. Et donc les enjeux financiers derrière tout ça sont extrêmement importants. L'industrie qui produit les canettes ou les bouteilles en plastique et puis ceux qui les vendent. Et puis après, tout ce qui s'est mis en place progressivement avec le recyclage des plastiques et des canettes en aluminium, notamment celles et ceux qui récupèrent le fameux sac bleu qu'on connaît tous et puis tout ce qu'il y a derrière. Et donc tout ça, c'est quelque chose de bien installé, qui a un certain niveau de performance, il faut le reconnaître. Mmh. C'est à peu près 90% qui est récupéré par ces éléments-là, mais il y a 10% qu'on ne sait pas ce qu'ils deviennent, ils partent un peu n'importe où, et malheureusement aussi dans la nature. Et 10% de 2 milliards de canettes, ça fait quand même 200 millions de canettes dans la nature ou pas au bon endroit en Belgique. Et ça, évidemment, c'est un vrai problème d'abord de propreté publique.
Et du coup, quelle est ta stratégie pour repousser ce dossier qui est un peu toujours bloqué
Alors,
au Parlement ?
Alors, pourquoi c'est vrai que je n'ai pas répondu à ta question, pourquoi, pourquoi il est bloqué ? Il est bloqué parce que, au départ, donc sous la pression, notamment des lobbies de la grande industrie et de la distribution, ils disaient oui, mais nos voisins ne font pas comme ça, à part l'Allemagne. Et c'est vrai qu'au Grand-Duché de Luxembourg, aux Pays-Bas et en France, il n'y a pas de système de consigne. C'est surtout dans l'Europe du Nord qu'on a ce type d'éléments. Et donc, ils disaient oui, mais à peu près un Belge sur trois vit à moins de 20 km d'une frontière. Et s'il peut acheter des bouteilles ou des canettes parce que déjà la fiscalité est moins chère, par exemple en France, bah, il va aller s'approvisionner là-bas. Et le résultat des courses, c'est que on va un peu faire ça inutilement. Hein, on va mettre une consigne chez nous, mais ça va encore encourager parce que le prix sera moins cher ailleurs, même si on récupère la consigne après. Et on va aller acheter là-bas où il ne faut pas avancer les 15 ou 20 cents de consigne. Mais depuis quelques années, les choses sont en train de changer. Les Pays-Bas ont bougé leur position puisqu'ils ont, depuis maintenant 2 ans, une consigne sur les petites bouteilles en plastique. Ils en avaient déjà avant sur les grandes. Et puis maintenant, ils ont mis en place aussi la consigne sur les canettes.
Ah ouais, ok.
Et puis du côté du Grand-Duché de Luxembourg, le gouvernement a inscrit dans la loi le principe de la consigne, mais ils aimeraient bien que ça se fasse à l'échelle du Benelux.
Ah ouais, ok.
Et puis en France, ils y réfléchissent, une fois c'est oui, une fois c'est non, mais on sent que les choses évoluent. Et puis l'Europe aussi, récemment, a mis pour la première fois dans la réglementation européenne la consigne comme étant un outil pour régler et aborder le problème des récipients, des emballages pour boissons et aliments. Donc on voit bien que les choses évoluent et qu'autour de nous, les choses bougent. Et donc ce que j'ai fait avec mes collègues au groupe, on a déposé une première proposition de décret, c'est la première fois qu'on l'a fait au Parlement de Wallonie, il y a déjà 3 ans maintenant, bientôt 4, une proposition de décret pour dire, voilà, la consigne est obligatoire. Mais c'est vrai qu'on est un petit pays, et l'idéal c'est que ce soit la même consigne en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie.
Ouais,
on se déplace quand même facilement dans notre pays, on achète d'un côté, on consomme de l'autre. Et donc les discussions, elles ont lieu là aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, si tu veux, il y a un peu le secteur de l'industrie qui produit les canettes, celui qui les vend, hein, comme Eos, la grande distribution. Mmh. Eux, ils voient ça plutôt comme un problème, en fait, une charge pour eux. Et ils craignent qu'ils en vendent moins demain. Et donc ça, c'est vraiment la logique dans laquelle ils sont.
D'accord.
Et puis, aujourd'hui, il y a une partie du coût qui est assumée par la collectivité. Quand tu jettes ta canette... j'espère que tu ne le fais pas. Quand tu jettes ta canette par terre, c'est la collectivité qui va la ramasser. C'est un ouvrier communal ou quelqu'un qui est de bonne volonté qui va le ramasser.
Ouais.
Et ça a un coût. Et évidemment, pour les entreprises, aujourd'hui, elles ne l'assument pas du tout. Et donc là, il y a vraiment une logique à changer. Il faut que le pollueur, il soit celui qui paye. Aujourd'hui, c'est dans nos impôts qu'on paye les déchets par terre. Et ça, vraiment, c'est une crainte du secteur. Mais bon, c'est une crainte qui aujourd'hui n'est pas avérée, puisque dans les autres pays, en Norvège, en Suède, en Allemagne, comme tu l'as dit, les choses se mettent en place. Donc voilà.
Donc c'est possible en fait.
Exactement. Donc c'est une question de volonté. Alors il y a des histoires de gros sous aussi derrière. Il ne faut pas s'en cacher. Et puis, je prends un autre exemple, ce sont nos amis agriculteurs. Chaque année, plusieurs dizaines de vaches meurent dans d'atroces souffrances en plus. Parce qu'elles ont avalé des déchets de canettes. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Le bord des routes, il y a des machines qui passent pour faucher, pour que les conditions de visibilité pour ceux qui circulent sur les routes soient bonnes. Et donc, ils n'ont pas l'occasion de ramasser avant spécialement tous les déchets.
Oui,
les bras coupent, enfin les faucheuses passent, et puis, hop, les petits morceaux de métaux, ils se retrouvent dans la prairie, dans la nature, et puis les vaches l'avalent. Les vaches l'avalent. Et après, leurs estomacs, puisqu'elles en ont deux, finissent par être abîmées, percées, et elles meurent d'hémorragie interne. Enfin, ça va pas, quoi. C'est anormal.
Mmh.
Et puis voilà, il n'y a qu'à se balader, malheureusement, dans nos rues, dans nos campagnes, dans nos forêts. Et c'est rare qu'on ne voit pas des petits coins où il y a des amoncellements de canettes et de bouteilles en plastique. Ce n'est pas ça qu'on veut pour l'avenir. En tout cas, moi, je trouve que c'est quelque chose sur lequel je ne suis vraiment pas d'accord et j'ai envie de me révolter, de changer les choses. Voilà. Je ne sais pas si toi, tu as déjà participé à des opérations de nettoyage propreté dans un quartier.
Oui, mais il y a quelques années, je ne l'ai fait qu'une fois, j'avoue. Ouais. Mais c'est vrai que c'est important. Et par contre, je ne suis pas du tout la personne qui jette ses canettes ou quoi en rue. Je trouve que c'est... À Liège, on a ce problème-là, c'est très sale. Je ne sais pas comment ça fonctionne, le système communal. Moi, j'aimerais bien réellement qu'ils mettent peut-être des poubelles limites intelligentes parce qu'on a tout le temps des poubelles pleines, des déchets à terre et souvent, en plus, dans les zones touristiques. Donc, c'est sale. Et effectivement, les gens, je les vois, il y a tellement pas de, assez de poubelles et de place dans la poubelle qu'ils le foutent à terre. Et ça, je préfère garder dans mon sac mon déchet. Mmh. Mais je comprends tout à fait. Ça peut rendre même une ville sale, en fait, et laide, tout simplement. Et ça, c'est un gros problème à Liège, en tout cas.
Ah, donc, c'est effectivement la propreté, l'image publique. Oui, et oui. Puis voilà. Puis quand on commence à vivre dans un endroit sale, bah voilà, ça n'induit pas des comportements très respectueux.
Ça incite. Ça incite, limite. Hein. Quand on n'a pas de place dans la poubelle, on se dit, bon, bah tant pis, moi j'en vois plein en rue. Donc, oui.
Voilà. Mais donc, l'actualité, c'est le fait que. Dans les prochains mois, les prochaines semaines même, les ministres de l'Environnement doivent se revoir pour tomber d'accord. Et des études qui ont été réalisées pour la faisabilité. Et donc, si on veut maintenant, il faut dire, tout le monde dit, OK, on va y aller, mais concrètement, comment on va le faire? Il doit y avoir un accord entre les trois régions pour y arriver. Okay. Et donc, c'est aujourd'hui que les choses se discutent. Et voilà, et mon job de parlementaire, de leader de l'opposition, c'est de ne pas lâcher la ministre de l'Environnement en Wallonie pour lui dire... Il faut y arriver. Il faut maintenant que le contexte autour de nous est favorable à ça. L'Europe dit il faut y aller. Nos voisins néerlandais nous disent on le fait. Nos voisins français y réfléchissent et nos voisins luxembourgeois sont prêts. Ils disent mais on n'a pas envie de le faire toute seule à l'échelle de petit Luxembourg. Les Allemands le font déjà depuis des années. Allons-y, quoi.
Ouais, merci, François, pour ce résumé exhaustif. Maintenant, je pourrai répondre à mon papa quand il me demandera pourquoi est-ce qu'en Belgique, on n'a pas ce système de consignes. Donc, du coup, on va passer à la prochaine séquence, qui est le questionnaire de comptoir. Donc, François, avant de faire ce podcast, tu as dû remplir un formulaire, un questionnaire qui n'a rien de scientifique. Hein. Mais donc, le résultat de ce questionnaire, c'est que tu es un décideur politique, pragmatique et rationnel, axé sur les résultats. Comment est-ce que tu réagis à ça?
Mais c'est pas du tout moi, ça. C'est une blague. Non, je pense que ça colle assez bien à je pense que ce que je suis. En tout cas, voilà, moi, je recherche efficacité. Pour moi, ce qui compte, c'est le résultat. Moi, voilà, ce qui me motive dans mon engagement politique, c'est le bien commun, c'est l'intérêt général, c'est la défense, finalement, d'un mode de vie, d'une société qui soit... où on puisse respirer, où chacun puisse trouver sa place, où on puisse, sur le plan personnel, chacun s'épanouir, donner le meilleur de soi-même, et où finalement on ne vit pas les uns à côté des autres, mais les uns avec les autres. Ça, moi, c'est mon idéal, c'est ce qui me donne envie. Puis après, derrière la vision, il faut que chacune des décisions du quotidien, chacun des éléments que l'on met, ben, viennent conforter cette vision pour obtenir du résultat. Et ça, c'est évidemment super important. C'est pour ça que je suis un vrai pragmatique. Je garde un idéal, j'ai un idéal, mais derrière l'idéal, je me dis, ce qui compte, c'est aussi des progressions. Il faut que chaque jour soit meilleur, que chaque décision montre qu'on est dans le changement, dans la façon de faire bouger les choses. Et ça, c'est super important.
Ouais. Et ça, justement, si je peux faire un lien... moi, ça fait pas depuis longtemps que je suis en politique, mais du coup, je suis jeune et je suis entourée de jeunes qui me disent « Mais pourquoi est-ce que tu fais de la politique au final ?» C'est souvent des bad buzz, etc. Et justement, je leur dis « Mais derrière ça, il y a des parlementaires qui travaillent, qui font un boulot au quotidien et il y a du concret. C'est pas ce que vous voyez simplement à la TV, les débats télévisés où on a des présidents de parti qui s'attaquent. C'est vraiment un travail au quotidien, concret, et comme tu dis, faut viser l'efficacité et les résultats. Il n'y a que ça qui va faire changer les choses.
Voilà, mais il faut garder ton enthousiasme aussi. Hein, oui. Il faut dire, voilà, on a envie de faire bouger les choses parce que quelquefois, c'est vrai que ça peut être un risque. C'est finalement d'être happé oui. par le quotidien et trop dans la gestion. Voilà, il faut garder de l'ambition de changer le monde. Quoi.
Oui, oui,
on parlait quelques instants avec la consigne sur les canettes. Mm-hmm. C'est bien sûr quelque chose de très concret, mais c'est parce que derrière, il y a une volonté de changer notre mode de consommation,
oui.
notre rapport avec les objets, avec les choses, avec une société qui, à un moment donné, risque de s'épuiser. Donc, voilà. Et votre génération, je trouve, moi, en tout cas, me donne aujourd'hui beaucoup de leçons quand j'entends le retrouver du sens dans le boulot, dans l'activité, les engagements.
Oui.
Ça, chapeau, parce que quelque part, les générations qui sont les nôtres ont été générations beaucoup plus hédonistes, consuméristes, et ça tient pas la route. Quand à un moment donné, voilà, on peut, il faut prendre du plaisir dans la vie, c'est certain, mais il faut aussi le faire avec une forme de modestie, avec une forme de, je dirais, de pas de raison, mais en tout cas, regarder les choses avec un angle différent. Et ça, voilà, je sens bien que dans les nouvelles générations, il y a oui, ça et c'est super. Quoi. Donc, il faut garder cette flamme.
Oui. Donc, du coup, on va passer à la prochaine séquence qui est « Que ferais-tu si tu étais ?» Et donc, du coup, moi, ma question, celle que j'ai choisie pour toi, c'est que ferais-tu si tu étais ministre de l'Environnement pour justement améliorer la protection de l'environnement ?
Ça, c'est une question colle parce qu'elle est aussi large que ça. Hein. Quand on réfléchit, on n'a déjà pas parlé, par exemple, avec le système de la consigne. Voilà
oui.
un élément qui est concret. Je pense que si on veut améliorer durablement notre environnement, il faut d'abord s'en donner les moyens. On voit bien que, sur le plan formel, on dit attention, il faut que les projets qu'on soutienne ne mettent pas d'impact sur l'environnement, soient mesurés, etc. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que dans les grandes décisions, quelquefois, on passe totalement à côté de la plaque. Et donc ça, c'est un changement de mentalité. Alors ça implique que, pour moi, le futur ministre de l'Environnement ou la future ministre de l'Environnement, il soit probablement le ministre-président en Wallonie ou en région bruxelloise, qu'on dise voilà comment on en fait une priorité. Parce qu'aujourd'hui, la ministre de l'Environnement en Wallonie, c'est la dernière ministre dans l'ordre d'importance. Elle participe pas à toutes les décisions importantes qui sont prises par le cairn du gouvernement wallon. Et ça, c'est une vraie faiblesse. Je vais prendre un autre exemple. Dans ma région, on a un projet de nouvelle ligne à très haute tension. Ça s'appelle la boucle du Hainaut. Alors, l'objectif, on peut le partager, à savoir amener de l'électricité qui est produite en mer du Nord vers l'intérieur, notre réseau électrique. Mais il y a deux technologies possibles. La technologie la plus utilisée, c'est le courant alternatif. Ça veut dire des ondes électromagnétiques. Ça veut dire des risques pour la santé humaine et pour l'environnement, pour ceux qui vivent à proximité de ces lignes à haute tension, ou bien du courant continu, qui lui ne génère pas de champ électromagnétique, mais qui est une technologie ancienne, mais qui retrouve aujourd'hui des lettres de noblesse, qui commence à se développer dans d'autres pays, notamment en Allemagne, et qui est beaucoup plus facilement gérable, pas de nocivité environnementale, on peut facilement l'enfouir dans le sous-sol, donc il n'y a pas d'impact paysager. Mais c'est nouveau. Et par exemple, dans ce dossier de boucle du Hainaut, je trouve que le gouvernement wallon ne prend pas suffisamment en compte la dimension environnementale et l'avantage de ces technologies-là. Et il laisse Elia, qui est le transporteur d'énergie en Belgique, défendre plutôt le projet avec les pylônes et les champs électromagnétiques. Alors bien sûr, l'alternative que constituerait le courant continu va coûter un petit peu plus cher, va nécessiter au niveau technique davantage de travail de la part d'Elia. Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine par rapport à la santé, par rapport à la protection de l'environnement, par rapport à la protection de nos paysages et finalement par rapport aussi à l'innovation ?
Donc, pour revenir sur les consignes, ce dont on parlait tout à l'heure, je me demandais, comme on a beaucoup parlé au niveau région Wallonne, de ton dossier, et moi, je t'ai justement fait un lien avec la ville de Liège, comment elle devenait un peu sale. Comment est-ce qu'on peut faire un lien? Comment ça fonctionne avec au niveau de pouvoir communal? Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui peuvent être faites aussi?
Bien sûr. La première des choses, c'est l'éducation. Comment adopter un comportement positif par rapport à cet enjeu-là? C'est certainement en travaillant avec les plus jeunes. Mm-hmm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire veiller à ce que toutes les écoles aient des poubelles de tri. Ça veut dire aussi donner des moyens aux clubs de jeunes, aux mouvements de jeunesse, aux clubs sportifs, pour également dupliquer cette logique de tri sélectif, cette logique de recyclage, cette logique aussi, par exemple, d'utiliser davantage des gourdes plutôt que des canettes ou des bouteilles en plastique. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments sur lesquels les communes peuvent agir concrètement, en mobilisant aussi les acteurs publics autour de ça. Puisque, par exemple, ceux qui s'occupent de déchets, ce sont des intercommunales. Ce sont les communes qui sont actionnaires des intercommunales. Elles peuvent donc agir de ce point de vue-là en développant tous des programmes de sensibilisation, mais aussi, par exemple, en encourageant les gourdes dans les écoles. Certaines écoles, d'ailleurs, ont arrêté de mettre en place des distributeurs de canettes et de bouteilles en plastique au profit de robinets d'eau, de distributeurs d'eau, de fontaines à eau. Voilà un exemple très concret. En plus, c'est bon pour la santé. Voilà des exemples très concrets. Après, on peut aussi agir sur le plan politique, ou en tout cas en action citoyenne, en développant bien sûr les opérations de ramassage pour sensibiliser, à condition évidemment que ces opérations de nettoyage et de ramassage ne soit pas un peu le tonneau des Danaïdes. Tu sais, une fois qu'on remplit, mais ça se vide tout le temps. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe d'ailleurs. Mmh. On nettoie un quartier et puis l'année suivante, on peut le renettoyer. Donc là, il y a des éléments évidemment de sensibilisation à faire. Il ne suffit pas simplement qu'une association de quartier, un groupement de jeunes, etc., disons, va faire une opération de nettoyage. Il faut après le faire savoir à ceux qui vivent dans le quartier pour les sensibiliser en disant « maintenant, on change de comportement ». Et puis après, l'action politique au conseil communal ou par une interpellation citoyenne, ça peut se faire. La plupart des règlements communaux ont des mécanismes qui permettent de faire une interpellation citoyenne. Hein, il faut respecter les formes, bien sûr, mais qui permet de dire, est-ce que la commune adhère au réseau de soutien à la consigne pour les emballages de boissons. Donc, plein de communes, à peu près une commune sur deux en Wallonie, à voter des motions de soutien à ça. Et donc c'est une façon aussi de, comme citoyen ou comme élu communal, de pouvoir interpeller le bourgmestre, les autorités, la majorité communale en disant « Est-ce que vous aussi vous êtes d'accord là-dessus ?» Et comme aujourd'hui il y a quand même un engouement, une demande très large des citoyens, c'est une façon de faire levier, parce que c'est finalement, encore une fois, je t'ai dit tantôt, j'étais un pragmatique. Enfin, c'est toi qui as dit que j'étais un pragmatique. Oui. Je te confirme que je suis un pragmatique. C'est mettre des petits cailloux les uns après les autres, quoi. Donc, c'est faire effet levier. Parce que si les mandataires locaux, tous partis confondus, disent oui, on a envie de soutenir ça. Et moi, je l'ai fait voter dans ma commune, par exemple. Au bout du compte, la pression, elle monte, quoi. Mm-hmm. Et donc, on quitte un petit peu cette situation aujourd'hui où, on voudrait bien, mais les lobbies sont forts et nous empêchent et font comprendre que peut-être ce sera difficile, alors que tous les autres aujourd'hui, tous les pays dans lesquels on a mis en place ça fonctionne. Voilà, et aujourd'hui, il y a des villes qui sont devenues propres grâce à ce type de décision. Donc ça, c'est ce que tu peux faire concrètement à l'échelle de ta ville. Je t'y encourage et n'hésite pas d'ailleurs à demander des conseils. C'est bien volontiers que on te conseille, ou en tout cas les outils. Après, c'est toi qui connais ta ville mieux que moi.
Oui. Donc François, on arrive déjà à la fin du podcast. Donc on va passer à la dernière séquence qui est de parler d'une personne inspirante.
Les personnes qui, moi, m'inspirent le plus, c'est sans doute celles et ceux qui, avec pas grand-chose, ont fait changer le monde. Ont changé ce qui était autour d'eux. C'est quelqu'un comme Gandhi en Inde, qui, avec une démarche de non-violence, a obtenu l'indépendance d'un pays, a travaillé aussi pour l'apaisement entre les différentes communautés de ce pays, sur l'abaissement des barrières au sein des castes, etc. Voilà quelqu'un qui, pour moi, Je dis waouh, rien qu'avec sa volonté, il est parvenu à faire plier un système. Je peux penser aussi à Nelson Mandela en Afrique du Sud qui, après des années de prison, après un combat mené derrière des barreaux, a finalement fait tomber un régime d'apartheid extrêmement dur. Et donc toutes ces personnes-là, ou encore Martin Luther King aux États-Unis, avec des marches, avec une logique de non-violence, avec un mécanisme de désobéissance civile. Ils rentraient dans les bars interdits aux personnes de couleur, ils s'asseyaient, ils se faisaient emprisonner, menotter, emporter par les polices, et ils continuaient comme ça jusqu'au moment où le système a craqué, où ils ont fait changer le monde par des petites choses du quotidien, par des petits éléments. Peut-être alors une dernière personne qui me tient à cœur, parce que j'ai passé beaucoup d'années de ma jeunesse dans les mouvements de jeunesse, c'est Baden-Powell. Voilà, c'est quelqu'un qui disait, dans tout enfant, dans toute personne, il y a au moins 5% de bon, et ces 5%-là qu'il faut faire fructifier. Voilà, et quelle belle école que finalement, celle de dire, on a confiance en toi, on croit en toi, donne le meilleur de toi-même, engage-toi et fais-le avec les autres. Et voilà, ça, c'est un vrai message d'espoir, c'est une vraie source d'inspiration pour moi. Et alors toi, Sonia, maintenant, à mon tour de te poser quand même quelques questions. Qui t'inspire dans ta vie? Qui aujourd'hui, pour quelqu'un de ton âge, vivant à Liège, historienne, qui te regarde comme personne qui t'inspire au quotidien?
Oui, donc moi alors, c'est Karine Clotuche, qui est conseillère communale à Liège, et avec qui je m'entends super bien. Et c'est, pour moi, elle incarne en fait la bienveillance en politique. Et c'est quelque chose qui me rassure et qui fait que j'ai envie de continuer à m'engager et à me battre pour toutes les inégalités, les injustices qu'il y a au quotidien en Belgique et même en Europe, etc. Et honnêtement, c'est une personne toujours à l'écoute, toujours disponible, elle fait un boulot de dingue. Et elle m'inspire vraiment au quotidien. Mais donc voilà, François, c'est déjà fini. C'est la fin du podcast. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Et donc, si tu as un dernier mot à dire pour tous les jeunes qui nous écoutent, c'est maintenant.
C'est l'instant ou jamais.
Oui.
Non, voilà, moi je dis engagez-vous, bougez-vous pour le monde dans lequel on est. N'ayez pas peur de monde politique, mais l'engagement, il peut aussi avoir lieu en dehors du monde politique. Pensez que chaque acte du quotidien, c'est un acte politique. Ouais. Faire ses courses à tel endroit plutôt qu'à tel autre, passer du temps à tel endroit plutôt qu'à tel autre, c'est un choix de société. Et donc, voilà, poignée à plein dedans. Et voilà, on a la chance d'avoir un avenir qui est potentiellement magnifique. Mais il faut se battre pour ça.